Interview.
1 Toutes, bonjour à tous, vous êtes bien et c'est normal, vous êtes à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et je reçois Nathalie Groulard de la Fédération départementale Ovine. Je ne suis pas trompée.
Oui, c'est bien ça.
C'est bien ça et on va parler, comme l'an dernier, de la Foire au Bélier. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
La Foire au Bélier, c'est le 5 février
oui.
À Créa, à l'espace Soubéran.
Voilà.
Et c'est quoi le principe ?
Alors le principe, c'est d'abord c'est d'ouvrir une foire aux éleveurs, donc d'organiser une vente de béliers pour nos adhérents, mais aussi pour tout éleveur de moutons de la Drôme, voire des départements limitrophes. Donc du coup, on invite des vendeurs et des sélectionneurs à venir présenter leurs animaux. Donc il y a des béliers de toutes races, hein, des races bouchères comme les Îles-de-France ou les Berrichons du Cher, Suffolk aussi. Et des races un peu plus rustiques, plus locales, comme la Préalpe, la Mérinos d'Arles ou la Morée Rousse. Voilà, donc tous ces béliers sont présentés à la vente et les vendeurs font leur prix avec les acheteurs. Voilà, et donc du coup, à partir de ça, autour de cet événement, on fait aussi venir nos partenaires, les partenaires de la filière comme le groupement de défense sanitaire. Les coopératives qui vont venir présenter aussi du matériel d'élevage, qui vont venir aussi présenter les différents produits qu'ils ont, par exemple pour l'alimentation des animaux, les minéraux, etc. Voilà, tout ça pour en faire un événement autour de la filière ovine.
Ah oui, on va revenir après, j'aimerais bien, si ça ne te dérange pas, revenir sur les races des béliers qui vont oui. être en vente. Mais comme tu le dis, vous rajoutez des stands pour éviter de faire juste une vente, je dirais, utilitaire. Mais on rajoute des choses à l'adresse des éleveurs, voilà. Finalement, qui sont susceptibles de les aider dans leur métier.
Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a le groupement de défense sanitaire qui, par exemple, va pouvoir sensibiliser les éleveurs à certaines maladies, à la conduite qu'ils peuvent avoir sur leur troupeau pour limiter ces maladies. Ils vont présenter un petit peu les actions aussi qu'ils font, que ce soit pour des formations collectives ou que ce soit dans l'accompagnement individuel des éleveurs.
C'est quel type de groupement, ça, ce groupement
sanitaire ? Le groupement sanitaire de défense sanitaire, c'est une association, en fait.
D'accord.
Donc, c'est une association à laquelle adhèrent les éleveurs du département. Et eux, en fait, ils sont le référent au niveau sanitaire.
D'accord, au niveau maladie et conditions d'élevage.
Mais on va dire, ils se substituent pas à un vétérinaire parce qu'ils travaillent vraiment sur le collectif. Donc, ils vont organiser des formations, ils vont faire de la sensibilisation pour telle ou telle maladie. Et par moment, ça se peut qu'ils accompagnent individuellement les éleveurs sur l'élevage, mais c'est pas leur cœur de métier. En général, ils se reposent plus sur les vétérinaires, dont c'est vraiment le rôle.
C'est pas une asso auquel tous les éleveurs sont adhérents de façon systématique.
Si, ils sont adhérents quasiment de façon systématique, notamment pour l'écarissage. Parce que quand les éleveurs ils ont des animaux qui meurent sur la ferme, ils peuvent pas l'enterrer dans le jardin ou dans la cour. Il faut que ce soit ramassé par un écarisseur, et c'est le GDS qui récolte les cotisations.
D'accord. Donc, ils sont quand même en lien, quoi qu'il en soit.
Oui.
Est-ce qu'il y a des exposants dans cette foire qui sont susceptibles d'être méconnus encore des éleveurs et à qui ça pourrait permettre d'être en lien ?
Alors, oui, on en a notamment. Il y a une entreprise qui va venir. C'est la première fois qu'ils viennent cette année. Et eux, de mémoire, ils vendent des produits de désinfection. De désinfection pour l'élevage ou alors des produits style raticide, etc. Et eux, c'est la première fois qu'il vient. Il tourne un petit peu dans la Drôme, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore très, très connu. Et du coup, c'est vrai que ça lui permet de rencontrer des éleveurs.
Voilà, on a dit le groupement sanitaire, cette personne qui ouais. fait des raticides,
des produits de désinfection. Après, il y a des coopératives. Des coopératives d'approvisionnement, donc ils vont venir présenter du petit matériel comme des filets à moutons, des postes de clôture, et bon, ils amènent 2-3 choses pour faire exposition, mais ils vendent aussi du matériel comme des barrières, des clèdes, des minéraux pour l'alimentation. Voilà, donc là, il y a deux coopératives qui sont ça. Et après, on a aussi les organismes de défense qui gèrent les labels rouges. Notamment, il y a le label rouge Agneau de l'Adré, dont il y a pas mal d'éleveurs qui sont adhérents sur le département. Et eux, ils viennent aussi pour présenter leurs produits, pour éventuellement avoir de nouveaux adhérents qui produisent en label rouge. Voilà. C'est des partenaires privilégiés de la filière.
C'est tout pour élever son bélier.
Voilà.
Je me demandais la place éventuelle du tout public dans cette foire.
Alors, cette année, on va essayer de faire une communication justement un peu plus large au grand public. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on veut que ce soit un événement d'abord professionnel et d'abord pour les éleveurs. Mais après, on essaye quand même de l'ouvrir au grand public parce que ça peut être aussi un moyen pour nous justement de communiquer sur le métier et d'expliquer ce que font les éleveurs dans leur élevage. Donc oui, la foire est ouverte au public et tout le monde est le bienvenu. C'est entrée libre. C'est à partir de 14h30 à l'espace Soubéran.
C'est un samedi, non pas du tout un mercredi, mardi, hein, j'ai pas le calendrier vraiment gravé là, à l'espace Oubéran à Cray. Donc c'est l'occasion de venir voir, mais effectivement ça se substitue pas, c'est pas un événement de divertissement, c'est quand même avant tout un événement à l'adresse des professionnels,
oui,
pour réellement faire l'acquisition de choses qui leur permettent d'exercer leur métier.
Tout à fait.
Alors j'avais dit qu'on reviendrait un peu sur les espèces de béliers, j'imagine les races, pardon, parce que le bélier est déjà une espèce peut-être. Ouais, j'ai là pareil, je suis pas très calée. Les races de béliers, j'imagine que celles qui sont présentes à cette foire, ce sont des races qui sont peut-être adaptées à l'endroit, ou est-ce qu'il y a encore une sélection à faire selon l'endroit d'où on vient?
Non, alors en fait sur le département, on a trois races locales qui sont un peu les races emblématiques du Grand Sud-Est. Donc il y a la Mouret Rousse, la Préalpe et la Mérinos d'Arles. Donc ça c'est des races, on parle de races rustiques, parce qu'elles sont effectivement adaptées à notre territoire qu'on a ici, mais c'est-à-dire adaptées à une alimentation, on va dire, à des ressources fourragères assez faibles en valeur. C'est-à-dire qu'elles peuvent passer, c'est pour un élevage extensif. Les Mérinos, c'est une race qui transhume très bien, qui est très adapté à la transhumance.
Je ne sais pas ce que signifie élevage extensif.
Ah, pardon.
Je ne dois pas être la seule, d'ailleurs. Hein. J'imagine qu'il y a des auditeurs en ce moment qui disent « Ah, ouf, elle le demande ».
Elle le demande. Donc, en fait, on parle d'élevage extensif quand on a peu de brebis par rapport à une grande surface.
Ok.
Et c'est assez caractéristique de l'élevage qu'on a ici, parce qu'on a des terrains qui sont très pauvres en valeur fourragère. C'est pas des vertes prairies comme on va trouver dans le centre de la France, dans le Limousin, etc.
C'est
de la garrigue,
c'est
sec, c'est très ras, on peut le dire comme ça, il n'y a pas grand-chose à bouffer.
Donc ils sont obligés de manger souvent, tout le temps, de brouter des petites choses tout le temps, des petites...
Ouais, voilà. Mais en fait, ce sont des races qui arrivent à survivre, en fait, dans des milieux comme ça, très secs et très arides.
Alors qu'il y a des espèces qui n'y parviendraient pas.
Voilà, bah, toutes les races plus bouchères,
les races,
comme je disais tout à l'heure, le Suffolk, l'Île de France ou le Berrichon.
Le Suffolk, c'est bien une race anglaise, du coup, en effet.
Ouais, Suffolk, c'est anglo-saxon, ouais.
Ouais, alors là, du coup, en effet, l'herbe grasse, quoi.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Et du coup, c'est des races qui ont besoin, qui peuvent pas se satisfaire de peu, en fait. Voilà, c'est plus des races peut-être de bergerie qui vont avoir besoin d'être un peu plus poussées en alimentation. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont très bien conformées et que du coup, quand on croise justement avec des brebis rustiques comme on a ici, on arrive à avoir des agneaux qui sont bien conformés et qui sont bien mieux valorisés. Et donc, c'est le revenu pour l'éleveur.
Donc là, on incite un peu du coup à faire quelques croisements opportuns qui font gagner en qualité,
ouais,
et en rentabilité aussi.
Bah après, tout dépend des objectifs de l'éleveur. Voilà, il y a des éleveurs qui préfèrent travailler en race pure, donc qui vont avoir des brebis rustiques et qui vont avoir les béliers en face rustiques aussi, parce que peut-être ils vont transhumer et qu'ils veulent pas avoir des béliers, s'embêter avec des béliers bouchés. Du coup, eux, ils feront pas de croisement. Ils pourront produire leurs propres agnelles, donc les femelles de renouvellement pour leurs troupeaux, c'est eux qui vont les produire. Et ils auront des agneaux qui seront peut-être un peu moins bien conformés, mais peut-être tout simplement parce que ça correspond aussi à leur système, en fait. Il y a beaucoup de fonctionnements différents d'un élevage à l'autre.
Et quand tu dis conformés,
Alors, conformer, c'est en fait, pour faire très court, c'est quand il y a des agneaux, des gigots bien ronds.
Et, on est carrément dans la qualité de la viande, conformer.
Ouais, dans la morphologie, en fait.
D'accord, ok.
De l'agneau. C'est pas directement la qualité de la viande, mais disons que les bouchers, ils aiment bien quand c'est un gigot qui est bien rond.
Un standard de taille et de forme et de... D'accord.
Voilà, c'est ça. Okay, parce que du coup, ça se vend bien, parce que ça fait des gigots qui sont assez gros. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui, on va dire, qui plaît aux bouchers et qui plaît aux consommateurs.
Ça veut dire que quand on va avoir du pure race, on va peut-être avoir un peu moins ce côté-là, mais ouais. Tout dépend de ce qu'on fait dans son élevage, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ok. Pour un regard un peu nouveau, comme je pourrais en avoir un si je me rendais à la foire du 5 février à Cré, je le redis l'air de rien, est-ce que entre le Suffolk et une autre race, est-ce que je vais voir la différence comme ça, ça va me sauter aux yeux, ou est-ce que c'est des choses plus perceptibles ?
Alors sur le Suffolk, c'est assez facile parce que c'est des brebis qui ont la tête noire.
D'accord.
Qui ont les muqueuses, enfin la peau noire en fait.
Ah, comme on en voit en Irlande, en Angleterre,
voilà,
tout ça.
Exactement.
Okay.
Après, effectivement, on peut dire... Non, il y a quand même des différences entre les races. Vraiment, visuellement, même pour un œil non averti. Après, effectivement, tu ne vas peut-être pas savoir que ça, c'est un Mérinos et que ça, c'est un Berrichon. Mais oui, il y a vraiment des différences entre les races. Parce que, par exemple, la Mérinos, elle est très, très lainée. Donc, c'est une brebis qui a de la laine jusque sur les sourcils, sur les pattes, sur le ventre, de partout. Tandis que le Berrichon du Cher, par exemple, qui est une race vraiment bouchère, il a un peu moins de laine.
Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est l'occasion de l'ouvrir au grand public pour communiquer dans un moment quand même privilégié sur le travail des éleveurs. C'est pas forcément simple de faire ça au quotidien. C'est des milieux qui se mélangent pas. Les gens, dans leur loisir, ils ne s'intéressent pas forcément à ça. Et
ouais.
Là, vous pensez que le grand public va être un peu... quand je dis le grand public, c'est juste les gens, quoi. Mais les gens vont être réceptifs, vont avoir envie de s'intéresser un peu à la façon dont ça fonctionne.
Et ben, on espère, justement. C'est pour ça qu'on a aussi les stands et on va mettre en place certaines... Alors, on ne peut pas vraiment dire qu'on va mettre des animations en place parce que pour l'instant, là, c'est la première année qu'on l'ouvre massivement au grand public. Mais après, les professionnels seront là aussi pour pouvoir discuter avec les gens qui viennent. Et je pense qu'ils en ont besoin aussi quelque part. C'est intéressant pour eux de discuter. Bon, après, tout dépend du caractère des gens, mais ça leur permet vraiment de valoriser leur métier et de ne pas être forcément dans la confrontation ou dans l'opposition ou de ne pas être dans une position de défense comme parfois on peut l'avoir quand on est quand on fait face aux opposants de l'élevage, hein. C'est voilà, là on n'est pas là dedans
oui,
je pense que les gens qui viendront, ce sera des gens qui seront intéressés et les éleveurs, ils auront plaisir à parler avec eux Mais c'est vrai que c'est très difficile, hein. c'est un vrai défi de communiquer là-dessus.
C'est pas leur métier quand même. Ils ont appris à élever en effet des animaux, du bétail, etc. La communication avec les gens, c'est pas... Ils le font tous, j'imagine, de bonne foi, ou il y a des gens pour qui c'est quand même plus compliqué, voire ça leur plaît pas que ce soit ouvert comme ça, ils préféraient que faire leurs affaires dans leur coin.
Dans le profil des éleveurs, des sélectionneurs qui seront là, il y en a... Non, en général, ils sont pas réticents à ça et je vois pas naître d'opposition. Je vois pas comment il pourrait y avoir d'opposition là-dedans.
Voilà, donc ceux pour qui c'est moins facile, ils le font quand même volontiers.
Ouais.
Ils disent, allez, c'est l'occasion de rencontrer les gens, les vrais, de leur montrer ce qu'on fait pour de vrai et de valoriser un peu aussi ce boulot qui n'est pas facile.
Et après, sur une autre thématique, on invite aussi la MFR de Divageux, qui est juste à côté. Donc, c'est la maison familiale rurale. En fait, c'est les jeunes qui sont en formation, éventuellement après, pour devenir technicien agricole ou agriculteur. Et chaque année, depuis 2-3 ans, ils viennent visiter la foire aussi. Et ça nous permet de communiquer auprès d'un public plus jeune. Et voir pourquoi pas de susciter des vocations chez les jeunes, des vocations d'installation après en élevage ovin. Donc là, à chaque fois, il y a un professionnel, des bords du conseil d'administration de la FDO qui les prend un petit peu en charge pour leur faire faire la visite et pour répondre à toutes leurs questions.
Voilà, donc là, une animation spécifique à l'adresse de la MFR pour répondre aux questions.
Voilà.
Pas de visite guidée prévue, sinon, pour les autres.
Non.
Ça va aller quand même, ils s'en sortiront. La place de la FDO là-dedans, l'actualité de la FDO, à part l'organisation, j'allais dire à part, c'est déjà peut-être beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que vous faites et quels sont vos gros dossiers?
Alors la FDO, depuis donc on a toujours notre travail syndical de défense des intérêts des éleveurs, hein, de la représentation. Après, en parallèle de ça, depuis 2-3 ans, on est en train de développer pas mal de projets, notamment des projets expérimentaux. Donc là, depuis 2 ans, on travaille avec le syndicat de la Clairette et l'antenne Fibel France, qui est un institut technique, pour développer un projet expérimental sur le pâturage des vignes par les brebis. Donc en fait, on fait des essais, il y a un troupeau qui est volontaire pour mettre ses brebis dans des vignes, et on étudie l'impact que ça peut avoir en termes de santé sur l'animal. Ce qu'il peut y avoir dans les vignes, en fait, comme les viticulteurs traitent au cuivre, et que le cuivre, c'est très toxique pour les brebis, on veut vérifier s'il y a vraiment un danger par rapport à ça.
Ça veut dire, est-ce que l'ingestion qui serait causée par la présence du troupeau dans les vignes serait en effet clairement néfaste et donc il est hors de question de poursuivre quelque chose dans ce sens-là, ou est-ce que finalement on arrive à en faire quelque chose?
Ouais, voilà. Parce qu'en fait, pour l'éleveur, c'est gagnant-gagnant, hein, comme système, parce que pour l'éleveur, c'est une ressource fourragère en plus, c'est-à-dire que c'est quelques jours, voire quelques semaines d'herbe qu'entre guillemets il n'aura pas à payer ou qu'il n'aura pas à subir, enfin qu'il n'aura pas
à trouver,
voilà, sur ses parcelles à lui, surtout dans des contextes de sécheresse. Et pour le viticulteur, c'est un désherbage naturel, en fait. Ça lui évite un passage d'herbicides ou de désherbage mécanique.
Ça peut faire engrais en même temps, vous pensez, ou...
Bah, on s'est posé la question. Ça dépend beaucoup parce qu'en fait, il se trouve que les brebis, elles amendent, enfin elles font leur crotte beaucoup la nuit. D'accord. Et en fait, on évite de les laisser pendant la nuit dans les vignes parce qu'il peut y avoir des problèmes de bousculade, de mouvement de panique, etc. Et on préfère pas le faire parce qu'il peut y avoir des risques d'abîmer la vigne.
D'accord.
Donc du coup, en général, les brebis ne couchent pas dans la vigne et du coup, l'amendement est un peu réduit. Mais après, ça dépend des expériences. Dans ces essais expérimentaux, en parallèle, on a fait des enquêtes auprès des éleveurs qui le font déjà, cette pratique-là, chez eux. Et il y en a certains qui nous ont dit « Oui, moi, je pense qu'il y a de l'amendement. » Mais
il y en a quand même
on
ne
va pas
peu.
Le vérifier.
D'accord. Bah, parce que la journée, si elles font quand même massivement... L'amendement, c'est rigolo. Si elles font massivement leurs besoins la nuit, ça ne peut pas être complètement annulé la journée, si?
Non, après,
elle fonctionne,
y a toujours,
d'accord.
Oui, il y en a toujours un petit peu.
Ouais. Oui, j'imaginais le fonctionnement nocturne et diurne de la brebis. et ça, ce serait après, si ça fonctionne, si on montre qu'en effet, cette présence de cuivre, finalement, s'il n'est pas ingéré directement par la brebis, si la cohabitation en fait, du traitement et de la brebis fait, pourrait être quelque chose qui est globalisé.
Oui, à terme, l'idée, c'est d'éventuellement développer cette pratique-là et de la mettre en valeur. Et pourquoi pas de pouvoir mettre en réseau les éleveurs et les viticulteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là. Si on a d'un côté des viticulteurs qui cherchent des brebis et de l'autre côté un troupeau qui cherche des surfaces à pâturer, on va essayer de les mettre en lien, voir si ça peut fonctionner entre eux. Après, il y a tout un aspect logistique, arrangement, etc. Enfin, voilà, il y a un côté un peu pratique à bien anticiper. Mais voilà, l'objectif avec le syndicat, en partenariat avec le syndicat de la Clairette, c'est de pouvoir développer cette pratique-là.
Ce serait sur quelle période que ça pourrait coïncider
Alors, pour qu'il y ait le moins de dégâts sur la vigne, il faut que ça se fasse forcément après les vendanges et avant les premiers bourgeons. Parce que sinon, les brebis peuvent aller abîmer les bourgeons. Et du coup, c'est une période de octobre-novembre à mars.
D'accord. Et voilà. L'hiver...
Donc c'est un pâturage hivernal.
D'accord, ok. Et oui, remarquez, il reste de l'herbe dans les vignes,
ouais, un petit peu,
tout ça.
Mais c'est vrai que là où... ce qui serait vraiment intéressant, ça serait de pouvoir le faire au printemps, parce que c'est là où on a la pousse d'herbe maximale. Et c'est là où ça serait le plus intéressant pour le viticulteur, parce que ça lui enlèverait vraiment un, voire deux traitements.
Mais là, il y a les bourgeons.
Sauf que là, il y a les bourgeons.
Ah.
Bon, après, il peut y avoir apparemment des solutions un peu techniques. On a entendu parler d'un, d'une espèce de muselière qui peut se mettre sur les brebis et qui fait que quand elle lève la tête, la muselière tombe sur le museau et elle ne peut pas du coup aller, si elle lève la tête...
D'accord, elle est obligée de manger au ras du sol.
Voilà, et du coup, si elle baisse la tête, la muselière se lève et elle peut manger que l'herbe du coup.
Et la cohabitation avec les ouvrières et les ouvriers dans les vignes, parce que c'est tout au long de l'année quand même qu'il y a des travaux dans les vignes.
Après, ça fait partie des aspects logistiques et pratiques que l'éleveur et le viticulteur doivent voir ensemble. Parce que c'est pareil, à l'automne, après les vendanges, il y a la taille. Donc effectivement, il ne faut pas que le troupeau gêne les travaux de la vigne à ce moment de l'année.
Bah, merci d'avoir exploré le côté expérimental de la FDO. C'est un truc que je ne connaissais pas du tout, à part les missions premières et puis ces missions-là de valorisation avec la foire au Bélier. Mmh. On rappelle qu'elle aura lieu le mardi 5 février à Cray, à l'espace Soubéran, que vous y êtes cordialement invité pour venir découvrir et discuter dans une bonne ambiance, comme on dit. On va éviter les militants véganes énervés et une buvette. Et ça, en effet, ça peut compter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, Nathalie?
Juste, je vais rajouter quelques chiffres. Donc en tout, il va y avoir 90 béliers et les éleveurs ont aussi la possibilité d'amener des agnels pour exposition. Pas à la vente, mais au moins pour montrer. On a la version mâle de la race. Et ben voilà ce que ça donne sur les agnels, comment elles sont conformées, etc. Et donc il y aura 25 agnels de présentés. Et en tout, il y a 7 éleveurs et 6 partenaires de la filière.
Voilà, vous pourrez venir découvrir tout ça. On finit en musique, j'aime bien faire ça. Et du coup, tu le sais et tu avais préparé dans ta tête un choix musical. C'est ton choix musical, ça n'a rien à voir avec les béliers, mais j'aime bien quand même, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
On va écouter Sweet Child of Mine de Guns N' Roses.
Bien, merci beaucoup Nathalie Groulard, je rappelle, de la Fédération départementale Ovine, qui est venue nous parler de la foire au Bélier le 5 février à Cray, à l'espace Soubéran. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté RDIWA. On se retrouve très bientôt.